L'urée d'un gars sans oublier l'urée de la Fayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. S'il les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Ou moi, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve.
La rage.
C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entendit d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères d'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse pour de la preuve.
La rage.
Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
La rage.
Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve.
La rage.
Chers auditeurs de La Rage de Dor, nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, je reçois Laure Pascarel. Je ne me suis pas trompée?
Pas du tout.
Laure, c'est pour une librairie d'exception, une librairie dans le mouvement, très précisément, Utopia. Est-ce que tu peux présenter ton parcours avant qu'on présente la librairie et le mouvement Utopia?
Alors moi, je suis une militante de la première heure. J'ai dû commencer vers 16-17 ans. À militer. Et puis, au fur et à mesure, je suis devenue une militante écolo, en parallèle de mon travail. Je travaillais à la poste. Et puis après, bah, j'ai arrêté de travailler parce que j'ai voulu me consacrer à mes deux
passions
de cœur qui sont les éditions Utopia et la librairie Utopia. Donc j'ai été la chef de projet, si on peut dire, de la création de cette librairie. J'ai suivi une formation pour être libraire. Et donc, on a créé cette librairie il y a 5 ans. Donc, pendant tout mon parcours, j'ai cette âme de militante écolo. Je suis plus une militante écolo sur le fond, c'est-à-dire, j'ai toujours organisé des conférences, des choses comme ça, qu'une militante comme Extinction Rébellion, voilà. Sachant que j'ai quand même fait des formations pour les manifs, au cas où, etc. Mais
pour tenir
les manifs, j'ai été sur des ZAD, des choses comme ça. Mais voilà, je suis pas. C'est ma façon de militer. C'est de militer avec les idées,
C'est une belle définition. Alors, on va parler du mouvement Utopia. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le mouvement Utopia, c'est un mouvement d'éducation populaire. Donc, on a le label éducation populaire. Je le dis parce que avec le mouvement d'éducation populaire, quand vous adhérez au mouvement, vous pouvez déduire 66% de vos impôts le montant de l'adhésion. Donc, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'imaginer un récit qui propose un projet de société écologique, sociale, de solidarité. Donc pour ça, on a été un peu dans les partis il y a très longtemps en essayant de développer des courants écolos dans certains partis. On développait d'ailleurs les mêmes textes, qu'on soit chez les Verts à l'époque, au Parti Socialiste, au PG à l'époque, au Parti de Gauche, etc. Donc on était tous un peu éparpillés dans ces partis.
Pour faire du lobbying.
On défendait les mêmes textes et les mêmes idées. Bon. Ça n'a pas vraiment marché. Le PS n'a jamais été vraiment écolo. Chez les Verts, ils pensaient un peu autre chose. Enfin, bon, bref. Donc, on s'est retiré des partis. Et c'est là qu'on est devenu vraiment un mouvement d'éducation populaire. Parce que pour avoir le label, il ne faut plus faire de politique. Au sens politicard du terme. Par contre, notre réflexion, elle est clairement politique. Puisque ce projet de société, il tourne autour de l'écologie politique. Alors, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas tout à fait ce qu'est l'écologie politique, c'est que l'écologie politique, ce n'est pas que l'environnement. C'est vraiment le cœur d'un projet politique avec le social, la démocratie, le féminisme, l'économie de l'émancipation, les communs, voilà. Donc c'est quelque
chose. Et la solidarité.
La solidarité, bien sûr. Et donc, on s'est concentré là-dessus, donc on a organisé pendant des années des conférences à la Maison des sciences économiques, dans le 13e, pendant 25 ans à peu près, 20 ans je dirais. Et puis, à un moment donné, il y a 15 ans, on a créé cette maison d'édition pour pouvoir à la fois éditer des auteurs écolos, autour d'écologie politique, mais aussi, et c'est ça qui est le plus important pour moi et pour le mouvement, parce que c'est sa particularité, c'est qu'on écrit aussi nous-mêmes des livres sous forme d'écriture collective. Et la collection s'appelle Idées reçues et propositions. Donc par exemple, vous en avez sur la démocratie, vous en avez sur les communs, vous en avez sur le nucléaire, bon, plusieurs thèmes. Et donc en fait, il y a un petit groupe qui se réunit, qui écrit un plan détaillé. Idées reçues sur la démocratie, par exemple, et propositions. Ce plan détaillé, on l'envoie ensuite sur notre fichier de entre 15 et 20 000 personnes. C'est pas tous des adhérents, hélas, on serait riche.
20 000 personnes adhérentes, waouh.
Ouais, c'est des adresses mail qu'on récupère au fil de l'eau, voilà. Et on demande qui a envie de participer à l'écriture de ce livre. Et s'ils veulent participer, donc ils se signalent. Et ils envoient des propositions de textes sur le plan détaillé, que ça soit les idées reçues ou les propositions.
D'accord.
Donc nous, on reçoit tous ces textes, qu'on appelle les amendements, on les trie, et ensuite on fait des grandes assemblées générales, ce sont nos conseils nationaux, où on parle des textes. Donc on lit tous les amendements voilà, qui ont été, et après on les débat, on débat et on, et le côté pédagogique c'est à la fois sur le fond parce qu'on essaye d'interpeller les personnes à s'intéresser au sujet, mais aussi sur la forme, c'est-à-dire que on leur apprend, ça c'est un peu pédant de dire on apprend, mais on essaye de d'organiser ces débats de façon très démocratique et très consensuelle. Donc on fait du tirage au sort pour essayer de faire parler tout le monde, on alterne homme-femme, et on essaye d'arriver sur des écritures de consensus. Et un petit, par exemple, il y a une question bon, qui fait débat, les gens ne sont pas tout à fait d'accord, et donc il y a deux, trois personnes qui se mettent dans un coin et qui proposent une écriture de consensus.
D'accord.
Et après, on vote. Et on vote amendement par amendement. C'est assez long. C'est-à-dire qu'un livre, on l'écrit en 3 ans, à peu près. Mais pour nous, le chemin est aussi important que l'aboutissement du livre.
D'accord.
Voilà.
Mais un vrai livre, ça prend 3 ans.
Oui. Oui.
Je sais de quoi je parle.
Oui, alors, il prend 3 ans, mais après, il y a tout le travail de l'éditeur, la correction, le maquettage, etc.
Mais l'écrire, ça prend au moins 3 ans.
Oui, c'est long. Ouais.
C'est très long.
Voilà, donc ça, c'est le cœur de nos mouvements. On essaye d'animer le débat dans la cité, auprès des citoyens, sur l'écologie politique. Donc et c'est là que, quand on a créé cette maison d'édition, on faisait donc ces conférences à la maison des sciences économiques. Puis à un moment donné, on s'est dit, il nous faut un lieu. Il faut un lieu qui soit le lieu de rassemblement des utopiens, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les utopiens et les utopiennes, qui soit vraiment le
tiers-lieu, c'est ce que vous dites.
Oui, le tiers-lieu vivant, politique, d'éducation populaire. Voilà. Et donc, ce lieu, c'est donc la librairie Utopia qui se situe au métro Maubert, rue Frédéric Sauton. Donc on l'a ouvert il y a 5 ans. Donc on a pris une location auprès de la mairie de Paris, qui s'appelait à l'époque la CMAES, c'était maintenant Paris Commerce. Mais ils n'ont vraiment pas fait de cadeau. C'est-à-dire qu'ils ont fait un loyer qui restait acceptable au début.
Ils l'ont augmenté progressivement.
Mais ils l'ont augmenté, mais d'une façon vertigineuse. Et puis, en nous prenant aucun frais, le ballon d'eau a pété, c'est à nous de le changer, la serrure était cassée, il a fallu la changer. On a tout payé dans ce local, d'où la difficulté aujourd'hui financière dans laquelle on est, mais on en parlera plus tard.
Oui, tout à fait.
Et donc, cette librairie, elle est un tiers-lieu parce qu'elle a plusieurs vocations. Elle a d'abord la vocation que les gens qui adhèrent à Utopia savent qu'il y a ce local, qu'il y a ce lieu où ils peuvent aller. Voilà. Alors, Utopia, c'est sur toute la France. Il y a des associations locales un peu partout. Mais
le lieu de rassemblement, c'est...
C'est là, et d'autant qu'on fait... je vais en parler tout à l'heure, on fait des rencontres, ils peuvent se connecter par Zoom. Enfin, on est assez inclusif par rapport aux militants qui sont en région. Donc, c'est le lieu d'Utopia. Voilà, c'est aussi le lieu de la maison d'édition. Maintenant, elle est domiciliée dans la librairie et on vend, bien sûr, nos propres livres. C'est une petite partie, mais parce qu'on a 60 titres à peu près. C'est le lieu aussi où des associations peuvent venir organiser des choses. Organiser des événements, des rencontres, des fresques. On a fait beaucoup de fresques. Si vous allez sur notre site, vous verrez... On a fait la fresque de l'imaginaire, la fresque du facteur humain, la fresque de la biodiversité, la fresque du climat. Enfin bon, ouais, il y en a plein. Et tout ça est gratuit. Tout ça est gratuit.
Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas un coût.
Exactement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, c'était open bar, tout le monde peut venir gratuitement, etc. Après, on a fait un tarif quand même pour les associations. Mais c'est un tarif... C'est 60 euros si vous la louez une demi-journée, vous voyez le truc. Enfin bon.
Dans Paris,
au cœur de Paris, quand vous sortez de la librairie, vous voyez Notre-Dame. Enfin bon.
Mais ça n'a pas de prix.
C'était quand même pour qu'il y ait une participation, un engagement quand même aussi. Voilà.
Mais c'est une participation purement symbolique.
Oui.
Parce que 60 euros, c'est purement symbolique.
Alors ça, c'est pour les associations. Après, on loue la salle aussi de temps en temps à des gens qui sont pas des associations. Et là, on fait un prix plus
large.
Plus large. Ce sont des petites entreprises. C'est généralement des gens d'abord qui travaillent sur nos sujets, mm-hmm. et qui gagnent pas beaucoup d'argent non plus. Donc bon, on fait quand même des prix assez intéressants. Voilà. Alors, c'est un lieu où donc les associations peuvent venir et où nous-mêmes nous organisons toutes les semaines, voire deux fois par semaine, des rencontres d'auteurs. Et donc la particularité, c'est que si vous allez, il y a des librairies qui font des dédicaces.
Tout à fait.
L'auteur y vient et il présente son livre, etc. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait au minimum deux auteurs, et si possible, un homme et une femme. Mm-hmm. Je dis si possible, parce que des fois, c'est compliqué. Et y a un thème de débat. Mm-hmm. C'est pas « je vends mon livre, comment la planète brûle et comment on fait ?» C'est...
La planète brûle.
Voilà, il y a urgence, la planète brûle. Quelles sont les solutions ? Voilà, c'est plutôt ça. Et les deux auteurs...
Débattent
entre eux. Alors, bien sûr, ils parlent de leur livre. Mm-hmm. Mais aussi, ils débattent avec la salle. Et débattent aussi avec les personnes qui sont connectées en Zoom. D'où la possibilité des gens qui sont en région de participer aux débats qui sont organisés dans la librairie parisienne. Et ensuite, on enregistre. Alors, on ne fait pas d'enregistrement d'images. On fait des enregistrements de sons. Mm-hmm. Et ensuite, on monte des podcasts. Voilà. Et tous les podcasts peuvent être accessibles si vous allez sur le site de la librairie.
Librairie-utopia.org.
Voilà. C'est la seule librairie écolo de France.
Je confirme.
Voilà. Donc, vous avez des librairies... qui ont des dominantes sociales et écolo, comme Quilombo par exemple.
Tout à
voilà.
fait.
Vous avez des
on
des,
les embrasse voilà. au passage.
Ouais, bah, oui, moi, je les adore, donc c'est pour ça que je me permets de les citer. Et donc, il y a des librairies qui sont engagées politiquement, Liberto par exemple.
Bah, Publico.
Publico, pardon. Publico. Voilà.
Qu'on embrasse, 145 rue Amelot dans le 11e.
Voilà, on les embrasse aussi. Ils font aussi d'ailleurs des débats et tout ça. Bon, tout bref. Là, nous, on est vraiment la seule, on a cherché, hein, on est la seule librairie écolo de l'écologie politique, donc c'est quand même assez large, parce que du coup, il y a du féminisme, du social, etc. Mm-hmm. Mais de Paris, mais aussi de France. Donc on est assez fiers. Alors, on comprend pourquoi personne ne s'est spécialisé en ce créneau, c'est que ce n'est pas rentable. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez gagner de l'argent,
c'est pas celui-là.
Il vaut mieux vendre le dernier Marc Lévy ou je
ou
sais
le
pas
dernier quoi. Jean Covici.
Voilà. Donc, mais par contre, on est maintenant quand même identifié. Bon, alors on a un problème de com parce que on n'a pas de spécialiste de la communication, on n'a pas d'attaché de presse, on n'a pas. Donc, on fait avec nos petits bras. On a fait un site d'un bénévole. Le bénévole, je le salue, Valentin, qui a fait le site tout seul, bénévolement.
Et il est parfait. Je suis allée sur le site pour écouter les podcasts avant de préparer l'entretien, ma chère Laure. Il est impeccable. On navigue sans problème, on a toutes les informations et il est agréable. C'est rare.
Ah ben, c'est super.
Pour souligner. On lui fait la bise à Valentin.
Bon ben, bravo Valentin. et puis d'ailleurs, on peut acheter des livres sur le site également.
Tout à fait. Donc, notamment le livre du manifeste d'Utopia, Penser et agir pour un monde habitable, avec une préface de Guerre Morin, Utopia, le manifeste du mouvement Utopia.
Voilà.
5 euros.
Donc ça, c'est, ça fait partie des 60 titres de notre maison d'édition. Voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle un tiers-lieu, c'est-à-dire qu'il a plein de vocations. Et d'ailleurs, il y a des gens qui viennent, ils vont dans la salle, ils prennent quelques livres, ils se mettent dans la salle, ils regardent. Mm-hmm. Parce que le lieu est attachant. C'est-à-dire que quand les gens connaissent, c'est ça le problème, c'est le bas qui blesse. Là. Quand les gens connaissent, ils reviennent. Mmh. Ils reviennent parce qu'ils ont, ils nous disent à chaque fois qu'on a une bonne sélection sur le fond. C'est-à-dire que nous, on sélectionne les livres un par un.
Oui.
On fait pas, c'est pas le représentant qui arrive et qui je vous en mets deux cartons, etc. On a un comité et on regarde ce qu'on va acheter en nouveauté, mmh. qu'est-ce qu'on renouvelle sur le fond, etc. Mmh. Et comme on n'a pas beaucoup de moyens, on fait attention. Donc
C'est l'engagement d'une librairie militante, comme Publico et Quilombo.
Exactement.
Tout à fait. Il y a un fonds qui est sélectif, mais qui est pertinent dans les trois librairies.
On essaye, en tout cas. Mais comme on est plusieurs, ça te permet aussi d'avoir des avis que l'on peut croiser. Ce qu'il faut aussi dire de cette librairie, c'est qu'elle est gérée par des bénévoles. Donc, c'est très compliqué, parce que il faut tenir un planning des bénévoles, il faut y a des trous, etc. Donc, ce qu'on voudrait, c'est prendre une libraire 3 demi-journées par semaine pour nous aider à être un peu plus, je sais pas professionnel parce qu'on est quand même professionnel, mais à être un peu plus cadré, quoi. Et,
administrativement, peut-être.
Voilà. Et puis.
Parce que libraire, c'est un métier.
Exactement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je suis la seule qui est formée, mais en même temps, les gens ont appris sur le tas.
Non, mais un libraire, c'est important dans une librairie.
Tout à fait.
Et c'est un métier que je recommande pour les jeunes générations. J'ai conscience d'être née avec une génération qui a lu Bradbury et Fahrenheit 400. Ça y est, j'oublie le chiffre.
Oui, c'est un chiffre, mais je me souviens.
Voilà, où la température où brûle le papier, ça m'avait impressionnée. Donc j'avais dit, je ne vivrai pas dans un monde sans papier, sans livre et sans librairie. Donc, bon, acte.
Non, c'est vrai. Même si on pense quand même que l'édition française et librairie française sont un peu en crise, hein, quand même.
Ah oui, grâce à un certain monsieur Bolloré.
Voilà.
On va passer.
Cette librairie attachante, on va dire, dégage, c'est vrai, cette ambiance où on a, qui permet d'avoir envie d'y retourner. Et ces rencontres, donc on organise des rencontres deux fois à peu près une à deux fois par semaine, avec les podcasts, etc. Et ça aussi, c'est un gros travail, parce que là, pour le moment, c'est moi qui m'en occupe. Mais ça veut dire que il faut prendre. Il y a les éditeurs qui prennent contact avec nous, qui nous proposent, etc. Donc on leur dit à chaque fois, oui, mais il faut une autre autrice ou un autre auteur. On veut faire un vrai débat, machin, machin. Bon, c'est super compliqué parce qu'il faut trouver une date qui corresponde aux deux auteurs.
Tout à fait.
Ils se mettent d'accord sur le thème. Et puis après, il faut commander les livres, il faut qu'ils arrivent à temps. Ça nous arrivait des fois où le diffuseur
tardait.
Donc je cours. Et là, je les salue aussi, la librairie Erol, parce qu'elle est juste à côté de chez nous. Et des fois, ils nous prêtent des livres le temps que l'arrivage arrive. Et ces rencontres, c'est aussi un moyen à la fois de donner de l'information, du débat. La salle participe toujours. Il y en a certains qui participent trop d'ailleurs, parce que c'est difficile dans les coupés, ils racontent leur vie et leur œuvre. Mais c'est quand même quelque chose de vivant.
Oui.
Et ça peut se finir aussi par un pot pour ceux qui veulent, etc. C'est aussi une façon de rencontrer. Les gens se rencontrent aussi et se parlent.
Voilà, ça donne corps au mouvement.
Oui. Tout à fait.
Alors, il y a 3000 livres, plus de 1000 références, 10 bénévoles et 40 mètres carrés. C'est pour résumer la librairie.
Oui, 40 de librairie et un petit peu moins, je ne sais pas combien elle fait. On va dire 40-40, l'autre partie, c'est donc une salle où on fait nos rencontres et où on fait nos expositions.
Tout à fait. Voilà. Alors, on va faire une pause et on va revenir sur comment vous aider à maintenir la librairie grâce au financement participatif. Merci Blandine.
Grand, 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 comme le vent. Et je suis douce comme l'eau. Et je suis tendre, 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 tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon. Je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps.
Chers auditeurs de La Rage de Dents, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission passionnante avec Laure pour présenter la librairie Utopia, une librairie dans le mouvement. Alors, Laure, pour les 40 mètres carrés, plus de 40 mètres carrés, les 3000 livres et les 1000 références, la ville de Paris vous a loué le local. Au départ, c'était à peu près combien le loyer ?
C'était 2003 et maintenant c'est 3005.
Aïe, ça fait mal.
C'est vrai que c'est... Et donc, on ne peut pas s'en sortir avec ce prix-là. On a demandé on a fait des rendez-vous avec la mairie de Paris, on a essayé de se faire aider pour négocier, etc. Eux, ils disent, bah non, c'est la Caisse des dépôts, nous, on ne peut rien faire,
etc. Ah oui, la Caisse des dépôts, consignation, c'est voilà. Spécial.
Donc, en fait, dans les moyens de financement actuels, il y a... un peu de location de salle, la vente des livres,
d'accord,
des partenariats. Par exemple, on a un partenariat avec Écorève parce qu'on commercialise leur revue. On a un partenariat avec la MGEN, avec la Ligue de l'enseignement.
D'accord.
Bon, c'est pas des sommes extravagantes, mais ça nous aide quand même.
Ça met du beurre dans les épinards.
Voilà. On est aussi financé en partie par le mouvement, les cotisations du mouvement, mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, on avait lancé un crowdfunding au démarrage pour acheter les livres. Et, enfin, pour
avoir une trésorerie.
Et là, on a relancé un crowdfunding pour continuer à financer le loyer et une partie de la salariée.
D'accord. Voilà. Donc, il vous faut combien en tout ?
Alors, en tout, il nous faudrait 25 000. Et le Ulule, parce que c'est sur Ulule que l'on a, c'est le Ulule SOS Librairie Utopia, on a 18 000. Donc, allez. Il nous manque 7 000 pour ceux qui sont bons en maths.
Oui, c'est pas mon cas. Merci, Laure, d'avoir fait le calcul. Donc, dans combien de temps il faut les avoir ?
Pour le moment, on ne l'a pas fermé.
Bon.
Mais il plafonne.
Ah.
Voilà. Donc il faudrait.
Il faudrait déjà populariser le voilà. financement participatif, d'où l'invitation à Radio Libertaire.
Oui, et je remercie Radio Libertaire de m'avoir invité.
Alors, ce que je te propose, Laure, c'est de te donner l'émission et tu l'enverras à tous les adhérents pour relancer, faire une piqûre de rappel ou le mettre sur le site internet. Ça sert de piqûre de rappel et ça permet d'élargir les dons. Parce que 7000, allez, dans les 3 mois, vous les avez.
Oui.
Et vous allez pouvoir engager une salariée ou un salarié.
Bah là, la salariée, on l'a trouvée, en fait.
Ah, vous avez trouvé la perle rare.
Elle a commencé, mais on lui a dit que si on n'avait pas assez d'argent dans le Ulule, elle le sait, hein, on est transparent avec elle, on ne pourra pas la garder.
Vous avez trouvé une perle rare. Bien.
Oui, ouais, qui est géniale. Donc je la salue. J'allume beaucoup de monde. Justine, qui est... En plus, elle est hyper souple, elle est compétente, parce qu'elle a, elle travaille dans une autre librairie. Elle, ça l'arrangeait, justement, de ne travailler que 3 demi-journées par semaine.
D'accord, pour compléter ses revenus.
Parce qu'elle travaille dans une autre librairie, où elle est elle-même... Ils sont 3 co-responsables, une librairie, et donc, comme ça, elle partage son temps entre les 2 librairies.
Mais c'est une perle.
C'est une perle. Donc, on ne nous la pique pas, s'il vous plaît.
On va trouver les 7000 euros. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Allez, le financement participatif, comment ça fonctionne?
Alors, vous allez sur le site Ulule.
Voilà.
Sur Ulule, il y a plein de causes. Toutes aussi importantes que les nôtres, naturellement. Mais celle-ci s'appelle SOS Librairie, Utopia. Et en fait, vous avez, en fonction de ce que vous mettez sur le site... ce que vous mettez comme participation, vous avez une contrepartie. Mm-hmm. Alors soit vous faites un don, et à ce moment-là vous pouvez, comme c'est un don, vous pouvez déduire de vos impôts
66%.
Soit vous préférez avoir une contrepartie.
Alors quelles sont-elles?
C'est des livres, en fait.
Oh,
c'est des livres.
Génial.
Alors si vous donnez 10 euros, c'est un café. Et après, à partir de... Au-delà de 10 euros, c'est un livre, 2 livres, 10 livres. Voilà. Et c'est généralement des livres Utopia.
D'accord.
Voilà.
Qui a eu l'idée de faire une contrepartie, les livres d'Utopia? C'est toi?
On était plusieurs. Moi, je suis, en fait, pour les éditions, je suis coprésidente des éditions Utopia. Mmh. Et j'étais la cofondatrice de la librairie en étant la chef de projet. J'étais dans la librairie pendant 3 ans à temps plein, quand même. Hein. Mmh. Et donc c'est vrai, quand on a lancé ce
financement,
ce crowdfunding, oui, ce financement participatif au début, on s'est dit autant en plus faire connaître notre maison d'édition,
oui.
Surtout qu'on a quand même, c'est pas pour nous vanter, mais des bons livres.
Oui, je confirme.
Voilà.
On les vend à Publico.
Voilà. Et donc, c'était une bonne façon
d'allier les deux objectifs.
Et on a eu des gros donateurs. Hein. On a eu des gros donateurs. Enfin, des gros donateurs dans notre monde à nous. Hein. Ouais. Voilà, qui nous ont vraiment aidés au début. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça a démarré assez vite. On est arrivé assez rapidement à 18 000.
D'accord.
Les gens nous connaissaient, on leur a renvoyé sur notre fichier, etc.
Mais maintenant, il faut donner un petit coup d'accélérateur.
Il faut donner un petit coup de jus, oui.
Voilà. Donc, c'est pour ça que tu as bravé le froid, le mauvais temps, ainsi qu'un emploi du temps problématique, le mien. Mais grâce à Blandine, qui... la technicienne, animatrice, qui a accepté de nous prendre en urgence, ça va le faire.
C'est très gentil, en tout cas. Merci.
Voilà. Donc, le financement participatif, tu as expliqué comment on fait, les contreparties, mais en fait, il faudrait faire les deux. Il faudrait faire un don, retirer 66%, et faire une contrepartie. Comme ça, on aurait vraiment la palette.
Ah bah oui, non mais ça c'est fromage et dessert, ça c'est sûr.
Ah bah oui,
c'est...
Soyons raisonnables, demandons l'impossible.
Voilà, bien sûr. Bon, alors, vous pouvez aussi adhérer à Utopia. Parce que
j'allais y venir.
Il y a des avantages d'adhérer à Utopia. Parce que déjà, vous avez une réduction sur les livres des éditions. Vous avez un livre gratuit par an et vous avez plein d'informations. Voilà.
Mm-hmm. Alors, l'adhésion, elle est à combien déjà?
Elle est à 36 euros par an.
Oh,
c'est pas cher. C'est alors, c'est le minimum. Vous pouvez donner plus.
Oui.
Bien sûr. Vous pouvez mensualiser, vous pouvez donner un coup. Enfin bon. Mm-hmm.
On est souple à Utopia.
Voilà. Et vous pouvez adhérer sur le mouvement, sur le site du mouvement.
D'accord. Alors, je rappelle le site de la librairie où il y a tous les liens. Mmh. C'est librairie-utopia.org. Alors, pour tout ce qui est animation, j'ai vu qu'il y a un certain nombre d'animations qui arrivent au mois de fin mars, début avril. Mmh. Est-ce que tu pourrais en parler un tout petit peu?
Alors, il faut que je m'en souvienne. Là, par exemple, ce soir, on a une animation sur... le thème de la santé et l'environnement, comment les deux sont liés et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure santé malgré notre environnement
malsain,
qui pourrait être amélioré. Voilà. On va avoir la semaine suivante. Oh, voilà, tu m'as causé. Tu m'as...
Je ne voulais pas te piéger.
Non, c'est pas ça, c'est que.
Il y a le grain de sable.
Oui! Avec Science Critique qui organise.
Et ça m'intéresse. Parce que
c'est une BD.
C'est une BD qui est faite par un couple. Il y a une
tout
la parité.
À fait.
Et elle a été présentée. Elle nous a été présentée.
Oui.
Par les éditeurs. Et vraiment, elle donne envie de. Et ça ne m'étonne pas que vous l'ayez. On a réfléchi, nous, à Publico, de l'avoir, mais que vous l'ayez en premier, ce n'est pas grave. Nous, on l'aura ensuite. Je vais demander à ce qu'elles viennent, ils viennent à Publico aussi.
Oh bah oui, ils seront très contents. En fait, c'est Science Critique, dont on a un partenariat avec Science Critique, qui font une petite revue.
Oui.
Donc, on la commercialise aussi dans la librairie. Et ils nous ont proposé de faire cette rencontre avec eux. Voilà. C'est ça que j'aime bien, c'est que dans ces rencontres, on essaye de mêler aussi des cultures différentes. Science Critique, ils font des revues assez, assez intello, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche.
Non, c'est des
revues sérieuses. Et la BD, elle est très sérieuse, mais elle est plus abordable.
Elle est ludique aussi. Elle est ludique. C'est ça qui est important dans les BD. Et elle est tout public.
Oui.
C'est ce que j'avais retenu. C'est pour ça que j'ai hésité à la prendre pour la présenter à Publico. Mais on va le faire. Je vais assister à la vôtre présentation.
D'accord.
Et comme ça, ça me donnera une idée pour plaider pour qu'elle soit présentée à Publico.
Alors, je me souviens qu'on a invité Corinne Morel-Darleux, qui est une autrice qui a fait pas mal de livres. C'était une militante écolo qui a fait un peu de politique à un moment donné, et puis qui a commencé à écrire des bouquins et qui en vit maintenant.
C'est très rare pour être souligné.
Voilà, elle écrit pour des livres pour enfants et des livres pour adultes. Elle écrit des romans, elle a écrit des essais. Enfin bon, elle est vraiment très intéressante. On va accueillir aussi Sandrine Rousseau pour son dernier livre. Donc Corinne Morel, c'est le 10 avril, par exemple.
D'accord. Et Madame Rousseau, quelle est sa plus-value?
Sa plus-value, c'est qu'elle écrit des bouquins. Donc, on l'interview. Donc, il va y avoir une autre autrice ou un autre auteur avec elle.
D'accord.
Elle débat sur son livre. Elle ne vient pas pour faire de la politique.
Bien.
Parce qu'en plus, on aurait des problèmes.
Oui.
Voilà. Donc, non, elle vient vraiment en tant qu'auteur. Elle est autrice.
Autrice.
Mais moi, j'écris auteur avec un E parce que ça me... C'est moins fatigant. Je mets auteur.e. Mais ça ne s'entend pas à l'oreille.
Mm-hmm.
Elle était déjà venue avec... Parce qu'elle avait écrit un bouquin avec deux autres autrices.
Oui, enfin bon. Tout à fait. Je l'ai rencontrée, je tiens à... Parce que c'est une rencontre très forte. Lors de la présentation à la Maison des Métallos du livre qui parlait du témoignage des survivantes de l'affaire Jackie et Michel et French Bokake. Elle était là pour soutenir ces femmes.
D'accord.
Donc, je l'ai rencontrée à ce moment-là. C'est un livre qui est vendu à la Fondation des Femmes et pour les victimes sous nos regards, aux éditions du Seuil. Et nous avions reçu trois journalistes dans l'émission Femmes Libres à Radio Libertaire.
Et elles avaient dit que c'était une des meilleures émissions qu'elles avaient faites sur ce livre. Donc il est vendu à Publico parce que cette cause de ce qu'on a fait dans cette affaire, Fresh Bukake et Jackie et Michel, nous tient à cœur.
D'accord.
Voilà, donc c'est pour ça que Madame Rousseau, bon, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'élus.
Et élus. Qui soutiennent cette cause.
Voilà, et elle était la seule.
Donc c'est une femme courageuse. Hein. Après, elle est clivante, ça c'est sûr. Mais
personne n'est parfait.
Elle est courageuse.
Oui, j'ai trouvé très courageux qu'elle vienne à la Maison des Métallos et elle parlait avec les victimes. Et ça, c'est suffisamment remarquable pour être cité.
Oui.
Voilà. Donc revenons à Utopia.
Alors le grain de sable, puisque vous en parliez, c'est le 16 avril.
D'accord, ok, pas de problème. Alors. Donc il vous manque 7000 euros, vous allez les avoir, je me fais pas de soucis. Et après, pour l'année suivante, comment vous allez faire?
Alors, on se dit que peut-être, il y a plusieurs options. On a déjà, et ça c'est pas une option, le désir de se développer quand même, de faire plus de rencontres, parce que ce qu'on fait aussi, plus de ventes, ce qu'on fait aussi, et qui nous rapporte un petit peu d'argent aussi, c'est ce qu'on appelle les librairies hors les murs. Mmh. C'est-à-dire que vous avez un événement...
Vous faites des tables de presse en dehors.
Voilà, donc on en fait beaucoup à l'Académie du Climat, donc il y a des conférences avec des intervenants, etc. Nous, on arrive avec nos valoches de livres, on s'installe. Donc il y a les livres des intervenants et les livres du thème de la conférence.
Tout à fait.
Donc du coup... C'est une vente qui est plus ciblée.
Oui.
Et c'est vrai qu'en 3 heures, on vend plus de livres qu'en 3 heures à la librairie, c'est sûr.
Tout à fait.
En plus,
on fait ça aussi.
Ouais.
Pour les thèmes autour de l'anarchisme. Donc, je connais. Je connais la vente hors les murs. C'est fatigant, mais c'est stimulant.
C'est fatigant, en effet, parce qu'on en fait quand même beaucoup. C'est fatigant physiquement, surtout, parce que c'est lourd, les livres.
Oui, c'est lourd. Surtout quand il faut les trimballer dans les transports en commun, je confirme.
Donc,
mais c'est stimulant parce
parce qu'on rencontre toujours plein de monde.
Voilà. Et qu'on n'aurait pas forcément dans nos librairies respectives.
Donc, en plus, on fait connaître notre librairie. On rencontre aussi les conférenciers, du coup, on va les voir. On les écoute parce qu'on est dans la salle de conférence. Donc, ça, c'est vachement intéressant.
Tout à fait.
On écoute aussi, on bénéficie. Par exemple, la semaine prochaine, le 2 avril, on va à l'Académie du Climat écouter Marc-André Sellos et Jean-Philippe ou Jean-Alain Dubois sur la santé des sols, pourquoi les sols c'est important, etc. Donc, on est toujours dans nos thèmes, mais sous une autre forme finalement, puisque on est une présence extérieure, plus ouverte finalement qu'à la librairie. Même si les rencontres sont une forme d'ouverture. Quand même.
Tout à fait. Alors, donc, dans le futur, vous allez vous développer, ça je crois aux librairies indépendantes, et je crois que le mouvement contre la concentration du livre et contre... les gens ont pris conscience que le livre n'est pas une marchandise comme les autres. Et que si on s'oppose à un certain nombre de choses qui vont mal dans nos sociétés, il faut aller dans les librairies indépendantes plutôt que d'aller dans certains réseaux. Que je ne citerai pas, histoire de ne pas être traîné en diffamation.
Exactement.
Voilà. Donc, nous sommes le futur. Et le futur engagé, s'il vous plaît. À Utopia, à Publico, à Quilombo, aux autres, La Brèche, enfin tout le monde.
Oui.
Et votre futur, donc c'est hors les murs, c'est un développement, c'est sûr. Et Justine, qui peut-être vous aurez suffisamment de finances pour la prendre à temps complet.
Temps complet, peut-être pas, mais au moins si déjà elle fait 3,5 journées par semaine, ça nous aide bien.
D'accord.
Parce qu'on a quand même, on a des bénévoles qui sont... hyper engagés.
Et qui sont épuisés.
Et qui sont. Bah ouais, par exemple, sur les librairies hors les murs, on a toujours nos fameux framadates avec les permanences à la librairie et les permanences à librairies hors les murs. Bah, des fois, on se retrouve. On se retrouve pas
je
assez
confirme,
nombreux.
Je confirme.
Par exemple, on va tenir la librairie du climat Libétour, ce qui est un énorme événement à l'Académie du Climat. On y a été plusieurs fois déjà. Et là, il faut être nombreux. Il faut être nombreux parce que quand y a des conférences, donc entre les conférences, les gens ils viennent, et ils viennent par, par vague. Mmh. Et là, il faut.
Faut bétonner. Faut,
ouais,
il
faut
qu'on soit. Si je puis te permettre.
Donc là, on ne peut pas être deux, quoi. Il
faut être plus. C'est clair.
Et d'ailleurs, si personne qui nous écoute, si certains souhaitent être bénévoles à la librairie Utopia, c'est des petites séquences de 3 heures, de tenir la librairie, ou de venir dans les librairies les murs. Mm-hmm. Pas de problème. Il y a aussi un groupe exposition, puisqu'on fait des expositions. Mm-hmm. Là, en ce moment, c'est l'invisibilité des femmes dans l'esclavage.
Ah oui, ça m'a, j'ai vraiment apprécié ce thème.
Et on fait, et là, toujours dans notre rôle d'éducation populaire, on fait des visites de classe.
Mmh. Alors, il faut savoir que l'esclavage, c'est tombé cette semaine, a été consacré à l'ONU comme étant un des pires crimes contre l'humanité.
C'est bien.
Voilà, bah, ça a duré un certain nombre de siècles et ça a mis à genoux le continent africain.
Alors, j'engage les auditeurs à venir voir cette expo.
Oui.
Parce moi que aussi. Moi, je ne connaissais pas très bien le sujet. Toutes ces femmes qui ont été vraiment martyrisées, c'est terrible. Et dont on n'a pas entendu
enfants.
Parler.
Mais
c'est
et
pour ça qu'on parle de l'invisibilité.
Tout à fait.
Et donc,
on parle plutôt des hommes qui ont résisté. Mm. Je pense à l'excellent film Amistad de Steven Spielberg. Mais on ne voit pas les femmes. Les femmes sont invisibilisées. C'est tout à fait exact.
Et donc, on a, pour les visites de classe. Le groupe, donc, moi je m'en occupe pas du coup, mais le groupe Expo crée des livrets pédagogiques pour intéresser les jeunes à l'exposition. Mais c'est aussi une exposition pour adultes. On a deux niveaux de lecture.
D'accord. Laure, est-ce que tu as une dernière demande pour inciter les gens à venir en masse à la librairie, soit en tant que bénévole, soit pour le don de financement participatif. Parce que notre émission touche à sa fin, hélas.
D'accord. En fait, déjà, venez voir cette librairie. Vous pouvez commander les livres, vous pouvez aller
sur
les
le site
acheter,
librairie-utopia.org.
Oui, puis vous pouvez, dans la librairie, et s'il y avait un livre qu'on n'avait pas, vous pouvez aussi les commander, parce qu'on on peut commander n'importe quel livre, en dehors de notre
stock,
de notre fonds. Vous pouvez en effet être bénévole, vous pouvez bien sûr donner ou participer ou
voir les deux
ou les deux
comme soyons raisonnables
comme dirait Maria. avec des contreparties et surtout moi j'appelle tout le monde à résister de façon générale
oui
parce qu'en fait l'écologie dans les textes de loi recule on a des gouvernements qui sont pas du tout à la hauteur des enjeux
ils sont plutôt du côté du plomb que voilà. Du côté léger
enfin il y a une espèce de d'irresponsabilité criminelle,
tout
je dirais.
Pour les générations futures.
Des décisions politiques qui sont prises aujourd'hui.
Mm-hmm.
Donc la seule façon, c'est de résister. Donc résister à sa façon. Nous, on résiste comme ça. On résiste avec les idées, avec le fait d'amener des gens à réfléchir. Et pour que chacun s'engage ensuite là où il veut. Mm-hmm. Soit dans un parti, soit dans les luttes, soit, soit dans les dîners en essayant de contrer les arguments de gens qui ne soit connaissent pas le sujet, soit ne veulent pas le connaître parce que ça leur fait trop peur.
Mm-hmm.
Tout ça sont des armes.
Oui.
Enfin, j'aime pas le mot arme parce que je suis plutôt anti pour la paix. Mais ce sont des arguments et des moyens
de
pour
résister.
Résister. Et la résistance. Créer, c'est résister, comme le disait Alfred Derry.
Mmh.
C'est un moyen aussi de lutter contre notre propre éco-anxiété. C'est vrai que quand on regarde les infos le matin, si on n'a pas quelques actions positives, notre petit rôle de colibri, on n'est pas bien, quoi. Donc, je dis pas qu'on va changer le monde,
mais
au moins, on aura fait notre part.
Tout à fait.
Voilà.
Et on aura résisté. Et ça vaut beaucoup mieux de se regarder dans la glace en ayant résisté qu'en ayant été passif.
Tout à fait.
Merci, Laure.
Merci beaucoup à...
À Blandine
qui est venue exprès.
Oui.
Et puis à Mariama pour...
Mariama, c'était un plaisir.
Oh, c'est gentil. Mais moi aussi, vous savez, je ne suis pas du tout coutumière de ce genre de choses.
Mm-hmm.
Et donc, j'avais un peu le trac quand même avant de venir. Et donc, c'est vraiment très intéressant de faire aussi ce type d'exercice.
Voilà. À renouveler.
À renouveler.
Pour l'année prochaine, pour un nouveau financement participatif, peut-être, pour Justine. On ne sait jamais. Donc, tu connais mon numéro de téléphone, donc je suis à ta disposition. Merci,
Blandine. Moi, je dis au revoir à tout le monde.
Merci. Merci.
Au revoir. Merci beaucoup.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu mes dents, sur vos roues, j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogilurie d'un gars, sans oublierie de la faillette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casser les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'allé ici ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Merci à Mariama pour son émission La Rage Dedans. Dans un instant à 17h23 sur Radio Libertaire, vous aurez rendez-vous avec Radio Espéranto, c'est à 17h30, de 17h30 à 19h. Mais pour l'instant, quelques instants musicaux.
Io sono così am, ho venuta del corpo che canto la flor, flor dell'am, intervinterni e speran. La cin venuce mi, aula grec, aula franca, e canto con mi. Persa ma voce e diranta del cor, esperanto.
Esperanto.
Saluton Radio Esperanto.
Saluton a la Gioscoltantoi.
Yes, al Ciui. Do yen Radio Esperanto.
Yes, en la cadre de Radio Libertaire.
Futsias, en la cadre, yes, de Radio Libertaire. Yes. Ognek nao komuk var mega herzoi. Telefon numero, kiel koutime. Nulo ou nou, kvardek tri. Seb dek ou nou. Ognek nao, kvardek.
Donc vous êtes voilà. À l'écoute de Radio Esperanto sur la fréquence de Radio Libertaire, 89,4 MHz, la voix sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération anarchiste, sur internet radio-libertaire.org et au téléphone tout à l'heure quand on fera une pause musicale, le 01 43 71 89 40. Et notre siège, c'est la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 11e arrondissement de Paris. Et donc... pas demain, mais après-demain, dimanche 21 mars 2026, à partir de 16h, à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry, il y aura une discussion, projection, discussion, un monde sans travail est-il possible ? Et ça va parler des handicapés méchants. Donc le film s'appelle « Bon pied, bon œil et toute sa tête ». C'est marqué groupe cinétique, comité de lutte des handicapés, groupe information asile, 1978, 1h20.
Et pourquoi méchant ?
Alors, projection du film Bon pied, bon œil et toute sa tête, réalisé en 78 par Gérard Leblanc et le groupe cinétique avec le comité de lutte des handicapés et le groupe information asile. Ce film analyse les handicaps dans l'histoire de leur représentation et de leur contexte social et politique et documente la lutte des handicapés méchants, entre guillemets, des psychiatrisés en lutte, entre guillemets, et autres troublions des années 70. Les handicaps sont souvent présentés comme étant dus au hasard ou à la fatalité. Ce film démontre au contraire que les véritables causes de nombreux handicaps, même s'ils ne sont pas directement liés aux accidents du travail, oui. Les handicaps dits de naissance ne sont souvent ni le fruit du hasard, ni le fruit du destin. Ah bah ils sont le résultat des conditions de vie imposées aux femmes. Être enceinte ne nous dispense pas de travailler debout, de tenir des cadences et de subir les mêmes conditions de transport que les